1 Corinthiens 2. Donc la dernière fois, nous étions partis du premier verset de l'évangile selon saint Marc, en disant que c'était en quelque sorte le titre de tout l'ouvrage, et que ce titre était extrêmement riche. Nous étions arrêtés sur le mot évangile, on avait dit pourquoi lire l'évangile, donc raison culturelle, parce qu'il est fondateur de notre culture, raison missionnaire et apostolique, parce que si on veut être crédible comme témoin, et si on dit que c'est la parole de Dieu, ben, il faut quand même l'avoir fréquenté, et raison spirituelle et mystique, c'est-à-dire que finalement depuis notre baptême, nous sommes appelés à vivre en enfant de Dieu, comme l'enfant de Dieu par excellence, le Christ Jésus, a vécu. Et donc si nous voulons vivre en enfant de Dieu, eh bien il faut voir vivre le Christ, il faut l'entendre, il faut l'avoir vraiment sous les yeux pour pouvoir finalement que notre cœur soit tout imprégné de lui. Donc c'était la raison majeure. Donc ça c'était voilà, pourquoi lire l'évangile. Ensuite on avait dit comment lire l'évangile, donc j'espère que depuis vous l'avez tous lu. On avait dit donc de le lire en une fois, sans vraiment s'arrêter, et ensuite eh bien, de le reprendre dans une lecture savoureuse et lente et méditée, avec éventuellement un papier et un crayon à côté, pour noter à la fois les passages qui nous inspirent, qui nous parlent le plus, pour y revenir dans la prière, et puis aussi noter les passages qui peuvent nous surprendre, nous déconcerter, pour notamment en demander les explications à un prêtre. On avait vu enfin que ce mot d'évangile ne voulait pas seulement dire une bonne nouvelle de façon un petit peu fade, mais que c'était le mot qui a été choisi dans la langue impériale pour parler des grands événements qui marquaient la vie impériale en faveur de tout le peuple. On disait justement que c'était voilà, l'évangile, c'était par excellence cette décision de Dieu, ce plan de Dieu en faveur de toute l'humanité d'envoyer son Fils pour nous sauver. Et puis on avait dit aussi que l'évangile, c'était correspondait à un mot hébreu justement, qui parlait de nouvelles qui engageaient souvent la vie ou la mort. C'est une question de vie ou de mort. Donc là encore, pour montrer que c'était pas juste une bonne nouvelle, il fait beau aujourd'hui, mais que c'était une forme de gravité quand même dans cette bonne nouvelle et une importance vitale. Tout ça, c'était sur l'évangile. Ensuite, on avait vu que saint Marc n'était pas nommé. Et on avait parlé de saint Marc, donc compagnon d'abord de saint Paul, puis de saint Pierre, et on avait dit qu'effectivement, depuis des témoignages qui remontent au 2e et au 3e siècle, eh bien, cet évangile était attribué à saint Marc, secrétaire de saint Pierre, qui avait, voilà, en quelque sorte, mis par écrit la prédication de saint Pierre. Puis on avait parlé un petit peu de saint Marc dans les Actes des Apôtres, puis de ce jeune homme qui part tout nu de Gethsémani, puisque les soldats se saisissent de son bras. Donc on continue et on termine sur l'explication du titre par ce qui est la fin de ce premier verset, donc évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Alors, deux remarques sur cette fin de verset, évangile de Jésus. Alors, tout d'abord, disons bien, on a un peu de temps à entrer dans l'évangile, mais il faut quand même poser les fondations, disons bien qu'un évangile, ce n'est pas une biographie de Jésus. Alors, en disant cela, on ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments biographiques dans l'évangile, que tout serait inventé, que... Non, bien sûr, c'est historique. Mais ce n'est pas une biographie au sens où les évangélistes n'ont pas pour but de raconter la vie de Jésus de sa naissance à sa mort, comme on peut faire dans une biographie moderne, en essayant d'être exhaustif avec l'enfance, l'adolescence, la maturité, etc. Le propos des évangélistes est d'abord un propos catéchétique. Le but, c'est de fixer par écrit la prédication, donc l'annonce de la foi, qui nous parle de Jésus sauveur. Et donc, les évangélistes vont mettre de côté beaucoup d'éléments, beaucoup d'événements, beaucoup de paroles et d'actes de la vie du Christ, parce qu'ils considèrent que soit qu'ils ne sont pas fondamentaux, soit parce qu'ils considèrent qu'en faisant un ouvrage trop important, on on perd de vue le but premier qui est que les personnes qui le lisent ou qui l'entendent, parce que c'est, même si c'est écrit, on a quand même une utilisation beaucoup encore de l'oral, donc que les personnes qui l'entendent, eh bien, ne retiendront rien. Si c'est un ouvrage de 500 pages qui voudrait être totalement exhaustif. Et donc c'est pourquoi Saint Jean l'évangéliste terminera son évangile en disant il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur Jésus a faites et qui ne sont pas marquées dans ce livre, mais on aurait pu remplir le monde entier avec tous les livres à écrire sur la vie du Seigneur. Donc, il faut bien comprendre là, qu'il y a, c'est un résumé, et un résumé qui porte d'abord sur l'œuvre de Jésus Sauveur. C'est pourquoi les évangiles s'attachent généralement aux années de vie publique de Jésus, c'est-à-dire ces années où il a prêché le royaume de Dieu. Non pas que Jésus ait vécu avant dans une grotte, mais au sens où, dans ces années de vie publique, il a rendu public son rang de Messie et de Fils de Dieu. Donc, voilà, je pense que c'est important de comprendre que les évangélistes ne diront pas tout de la vie de Jésus, contrairement à une biographie moderne. C'est important de comprendre que les évangélistes aussi, parfois, résument, fondancent certains événements, certains discours, donc ils ne vont pas forcément les remettre exactement à leur place historique, mais parfois pour des visées voilà, de mémorisation, bah, ils vont mettre plusieurs paroles du Seigneur Jésus ensemble, alors qu'elles ont pu être dites certaines la première année, d'autres la deuxième année, certaines à Capernaum, d'autres à Jérusalem, etc. Et la troisième chose, c'est qu'on verra que la passion du Christ occupe une place apparemment très disproportionnée dans l'évangile, puisque ce temps qui ne fait que 24 heures occupe plusieurs chapitres. Donc vous voyez, donc vous voyez, là encore, pour bien montrer qu'il y a une dimension catéchétique et non pas seulement une dimension journalistique de personnes qui écriraient la vie du Christ de façon exhaustive et un petit peu, continue. Là, il y a vraiment des passages qui sont mis sous silence et d'autres passages qui chronologiquement sont très courts, mais qui sont mis en lumière, et notamment, évidemment, la passion et la résurrection. Donc, voilà, il faut tenir les deux bouts de la chaîne. C'est un regard de foi qui occupe les évangélistes. Montrer que Jésus de Nazareth est, comme dit le titre, le Christ, le Fils de Dieu. Mais en même temps, c'est pas parce que c'est un regard de foi qui se serait mis à inventer des choses. C'est historique, mais il y a un tri qui est fait, il y a une clé de lecture qui est là, comme je vous disais la dernière fois. Saint Matthieu, c'est d'abord montrer Jésus accomplissant l'Ancien Testament, Jésus nouveau Moïse et plus grand que Moïse. Saint Luc, c'est plutôt adressé aux païens, donc c'est montrer Jésus miséricordieux, sauveur de tous. Donc là, il y a aussi une ligne directrice, une ligne d'écriture qui guide justement ce travail, bien sûr dans la lumière de l'Esprit Saint, qui les fait choisir, prier, présenter leurs propos de façon catéchétique. Deuxième point, on va voir que ce premier verset qui est le titre, en fait, nous donne le plan de l'évangile. Donc c'est assez fin, de la part de Saint Marc. Je n'ai pas toujours en train de se balader tout nu à Gethsémani, qui est aussi des choses d'une grande finesse. Comme ça, on va, j'espère, y voir plus clair dans notre lecture de l'évangile de Saint Marc, en voyant finalement comment Saint Marc, vraisemblablement, il n'a pas laissé non plus des notes en expliquant comment il avait écrit son évangile, mais on peut raisonnablement penser qu'effectivement c'est le plan qu'il a suivi. Donc, vous voyez, évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Donc, ces deux titres vont, en quelque sorte, scander et organiser l'évangile. Pourquoi ? Parce que l'évangile va être organisé en deux grandes parties. Et la première partie se terminera par Pierre reconnaît le Christ, donc ce sera la transfiguration, ce sera à Césarée de Philippe quand Jésus demande aux apôtres, mais pour vous, qui suis-je? Et donc dans Saint-Marc, Pierre répond, tu es le Christ. Donc il y a cette affirmation de Jésus, Messie. Et la deuxième partie se terminera avec Jésus proclamé fils de Dieu par le centurion au pied de la croix. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Vous voyez, évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, ce n'est pas seulement le titre, c'est aussi l'annonce du plan. D'abord, les hommes vont, évidemment un peu schématique, mais tout plan est un peu schématique, d'abord, les hommes vont entrer dans le mystère de Jésus Messie, et cette parole de Saint-Pierre, et ensuite, les hommes entreront dans le mystère de Jésus, Fils de Dieu, et ce sera la parole du centurion. Alors, à ces deux grandes parties, donc ces deux grandes parties sont ouvertes par un prologue qui porte sur Saint Jean-Baptiste, donc que nous lirons normalement aujourd'hui, et se termine par deux parties, donc un épilogue, le message de résurrection reçu par les femmes qui sont au tombeau, et il y a même un appendice dont les exégètes pensent qu'il a été ajouté dans un deuxième temps à l'évangile de Saint-Marc, qui est le récit des apparitions de Jésus. Donc, vous voyez, un titre, qui est à la fois une annonce de plan, un prologue, un épilogue et deux grandes parties. Alors, vous remarquerez que dans les deux parties, notamment la première, il y a en quelque sorte un écart. Parce que la première partie s'appelle « Révélation du Christ », mais on va voir que dans cette première partie, Jésus se présente comme fils de Dieu, nous invite à devenir enfants de Dieu, et que la réponse à cette invitation, c'est la foi. Donc c'est première, deuxième, troisième étape. Donc on pourrait dire, oui mais déjà Jésus est le fils de Dieu. Ben, oui, en fait Jésus est déjà le fils de Dieu, puisqu'il est de toute éternité. Mais en fait il y a un petit peu un décalage finalement entre Jésus qui dès le début de son évangile se présente comme le fils de Dieu, et son entourage qui lui ne rentre pas tout de suite dans ce mystère et dans cet acte de foi. Et donc, là, du côté de l'entourage, il y a vraiment cette étape de « je reconnais que Jésus est Messie », et ensuite, dans le mystère de la croix et de Pâques, « je reconnais que Jésus est fils de Dieu ». Mais Jésus n'a pas attendu Pâques pour dire qu'il était fils de Dieu. D'où ce décalage entre le titre « Révélation du Christ » et ce qu'on lira dans l'Évangile, c'est-à-dire que Jésus, dès le début, nous dit qu'il est fils de Dieu. Donc, voilà, cette première partie, Jésus est le fils de Dieu, Jésus nous invite à devenir enfants de Dieu, et la réponse à cette invitation est la foi. Cette première partie, en fait, elle sera reprise en quelque sorte dans la seconde, parce que dans la seconde partie de sa vie, Jésus ne va pas dire le contraire, il ne va pas dire, en fait, je n'étais pas le fils de Dieu, en fait, je ne vais pas du tout inviter à devenir enfant de Dieu, et il ne faut surtout pas avoir la foi. Non, évidemment, le Christ va redire la même chose dans sa deuxième partie, mais de façon plus profonde et surtout axée sur le mystère de la croix. C'est-à-dire, vraiment, dans la deuxième partie de son évangile, c'est Jésus qui, avec les douze, se met en route vers Jérusalem et qui regarde désormais vers le but de sa vie, vers sa croix et sa résurrection. Donc, je dirais, voilà, toute la première annonce de Jésus, qu'il est le fils de Dieu, que nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu, que la réponse à cette invitation, c'est la foi, tout ça va être repris, mais dans la lumière de la croix qui arrive et de la résurrection qui vient. Ça va, je ne vous ai pas perdu, non ? Voilà. Donc, Jésus, Christ, fils de Dieu, c'est le plan schématique, bien entendu, et à l'intérieur, on procédera étape par étape. Alors peut-être une remarque historique, vous voyez que les parties et les étapes ne suivent pas le découpage en fait des chapitres, parce que les chapitres ne sont pas un bon indice pour se repérer dans l'évangile de saint Marc, au sens où ils ont été mis très tard, à la Renaissance, et par des personnes qui n'avaient pas forcément les connaissances bibliques que l'on a pu acquérir au début du XXe siècle, où notamment on a mieux compris comment était écrit un texte par un hébreu. Parce qu'un hébreu n'écrit pas forcément un texte comme un occidental de la Renaissance, qui est une manière d'écrire sémitique, que l'on connaît mieux maintenant et qui nous permet de mieux comprendre effectivement comment les évangiles peuvent être écrits. Saint Marc, ce n'est pas Descartes, donc il n'écrivait pas forcément son propos de façon petit a, petit b, petit c. Donc les chapitres ne sont pas toujours d'une grande aide pour se repérer dans le plan, donc ils sont d'une grande aide pour se repérer dans le texte. Quand vous direz voilà, Saint Marc, chapitre 9, verset 2, ben, on a tous le même verset, mais ça a plus un but pratique que vraiment d'entrer dans la profondeur et dans le sens du texte. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Alors nous allons commencer l'évangile de Saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Donc je viens de vous lire ce que dans le plan, on a appelé le prologue, donc ce passage de Jean-Baptiste à Jésus. Est-ce que vous avez des questions? Bon, je n'avais pas posé cette question, mais j'ai des questions sur ce texte que nous venons de lire, peut-être avant que je ne commence le commentaire. Alors, tout d'abord, pour la carte, pour les pèlerins de Terre Sainte, donc le lieu traditionnel du baptême de Jésus alors, est situé à Bétharaba, donc en Jordanie, et maintenant plus précisément dans un site qui est en face de Bétharaba, qui s'appelle Al-Maktas, qui veut dire justement l'immersion. Donc il n'apparaît pas sur la carte, mais qui est en face de Bétharaba, donc en Jordanie. Pour autant, les Israéliens ont fait aussi un site du baptême de Jésus, ça coûte rien pour attirer les pèlerins, qui lui est un peu moins authentique, sans doute, qui est grosso modo en face, mais côté israélien. Alors, Bétharaba, ou plutôt Al-Maktas, a pour lui quand même la présence d'église de façon antique. Le site a été d'ailleurs classé par l'UNESCO comme site du baptême de Jésus, et c'est Al-Maktas que Jean-Paul II, Benoît XVI, et il me semble pas François, en tout cas Jean-Paul II, Benoît XVI, c'est sûr, sont venus lors de leur pèlerinage en Terre Sainte. Alors évidemment, c'est pas, ils n'engagent pas l'infaillibilité pontificale sur le fait que ce soit Al-Maktas, mais c'est quand même un signe, voilà, que les papes viennent se recueillir là-bas pour le baptême du Christ. Après, plus profondément, si le cycle du baptême n'a jamais été aussi clairement identifié, par exemple, que Nazareth ou que Bethléem, et ça, c'est aussi parce que le lieu du baptême du Christ, plus que Bethara, Betharaba ou Almachtas ou le site israélien, j'ai oublié le nom, le vrai lieu du baptême de Jésus, c'est le Jourdain. En fait. Et voilà, dans la pensée chrétienne, plus que le lieu du rivage où Jésus aurait posé les pieds avant de rentrer dans le Jourdain, ce qui a toujours été prégnant vraiment dans l'âme chrétienne, c'est le Jourdain. Parce que c'est le fleuve, en fait, qui compte encore plus que le site. Parce que le Jourdain, c'est évidemment le fleuve par excellence de Terre Sainte. C'est le fleuve qui donne la vie dans un pays si désertique, où l'eau est si rare, où l'eau est un trésor. Donc le Jourdain, c'est par excellence voilà, ce lieu qui rythme en quelque sorte la vie du peuple d'Israël. C'est ce fleuve que les Israélites ont traversé à pied sec quand ils sont arrivés d'Égypte, puisqu'il y a la traversée de la mer Rouge, qui est évidemment très connue, mais le miracle de la mer Rouge se reproduit en quelque sorte avec Josué lorsque les Israélites arrivent en fait par l'Est, hein, puisque Moïse meurt sur le mont Nebo en voyant la Terre Sainte, mais en n'y entrant pas. Donc les Israélites arrivent de ce côté, quand ils arrivent par là, c'est plus court, mais ils arrivent par là, et donc ils traversent le Jourdain à pied sec, renouvellement en quelque sorte du miracle de la mer Rouge, pour dire que voilà, Dieu les a accompagnés finalement jusqu'au bout. Donc il y a vraiment, voilà, et puis il y a les passages avec Élie et Élisée aussi, qui sont forts avec le Jourdain, hein, c'est le général syrien lépreux. On a cette lecture en carême qui vient voir je sais c'est Élie ou Élisée, j'ai un trou, je crois que c'est Élisée. Élisée, et parce qu'il y a une petite servante, merci, c'est une petite servante juive qui a été emmenée captive en Syrie, et elle dit à sa maîtresse, mais ton mari, le général, est lépreux, mais il y a un grand prophète en Israël qui pourrait le sauver, donc le général y va, au grand dam d'ailleurs du roi d'Israël qui pense que c'est un piège, qui reçoit une lettre du roi de Syrie qui lui dit « Je t'envoie mon général pour que tu le guérisses ». Alors lui, il déchire ses vêtements, c'est un piège, le roi de Syrie essaie de me piéger, plus jamais j'arriverai à le guérir, du coup le roi de Syrie va venir faire des représailles, envahir le pays, et puis donc là on dit « Non, ne manque pas de foi, il y a le prophète Élisée ». Et donc le général y va, et Élisée lui dit, bah, trempe-toi cette fois dans le Jourdain. Et donc, le général dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il s'attendait à ce que déjà le prophète sorte à sa rencontre, hein, que le prophète envoie juste un serviteur, il s'attendait à ce que le prophète lui impose les mains, fasse de grandes prières, etc. Et il dit, mais voilà, en Syrie, il y a aussi des fleuves, et qui sont bien plus nobles que ce Jourdain, et donc il est tenté de repartir, et son serviteur dit, mais si on t'avait demandé des choses difficiles, est-ce que tu ne les aurais pas accomplies? Ben oui, là on demande une chose facile, je suis là. C'est la gloire des serviteurs, ce passage. Et donc il se plonge dans le Jourdain et il en ressort sans lettre, ce qui évidemment est une image du baptême, avec l'eau qui fait vivre. Alors que la personne qui rentre dans l'eau était atteinte d'une maladie qui aurait pu devenir mortelle. Et donc c'est pour ça qu'on a ce texte en carême. Bon, je ne vais pas parler du Jourdain dans l'Ancien Testament pendant toute l'heure, mais voilà, pour dire que au-delà des lieux vraiment bien localisés du baptême du Christ, le lieu du baptême de Jésus, et c'est ce qu'on retrouve dans les préfaces de Saint Jean-Baptiste, et voilà, ce qu'on retrouve souvent quand la liturgie nous parle du baptême de Jésus, le lieu, c'est ce fleuve si marquant, si fertile, si important dans l'histoire du peuple d'Israël, qui est le Jourdain. Alors, oui.
J'ai une église, je pense qu'elle est déjà subie à la circoncision, donc on pourrait dire que dit qu'il était entre guillemets déjà. Alors qu'est-ce qui le pousse à aller voir Saint-Jean-Baptiste dans le désert ou dans...
Alors, disons, la circoncision, déjà, n'est pas le baptême. C'est-à-dire que, pour nous, nous voyons le baptême comme l'accomplissement parfait de la circoncision, mais pour les Juifs, ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire, la circoncision, c'est d'abord la marque qui fait entrer le petit garçon dans le peuple élu. Mais il n'y a pas de dimension vraiment de purification des péchés dans l'acte de la circoncision. Saint Thomas d'Aquin, beaucoup plus tard, dira que, effectivement, par la circoncision, Dieu pardonnait les péchés parce que c'était déjà une anticipation du baptême. Mais ça, c'est un regard chrétien sur la circoncision. Les Juifs, pour eux, c'est la marque d'entrée dans le peuple élu. Et donc, il y a d'autres rites qui sont des rites, effectivement, de purification par l'eau, qui sont aussi connus des Juifs, notamment dans la purification des mains, qui est très connue, mais il y a aussi de plus en plus, au fur et à mesure qu'on se rapproche de Jésus, notamment dans la communauté de Qumran, on retrouvera de grands bassins où il y avait de grands rites d'ablution. Mais ce baptême de Jean-Baptiste, il est quand même assez nouveau, puis il est lié évidemment à une prédication très forte de Saint Jean-Baptiste, et c'est ça qui attire aussi les Juifs. Donc c'est pas pour les Juifs, le baptême de Jean-Baptiste ne fait pas redite avec la circoncision. La circoncision les a fait rentrer, quand ils avaient 8 jours, dans le peuple élu, mais le baptême de Jean-Baptiste, pour les Juifs qui viennent à lui, c'est un baptême par lequel ils disent leur désir de conversion. C'est pas un baptême, c'est pas comme le baptême chrétien, ça n'obtient pas le pardon des péchés par don de la grâce, c'est pas un sacrement. Mais les Juifs, par là, veulent montrer qu'ils se disposent à accueillir le Sauveur. Puisque la prédication de Saint Jean-Baptiste, c'est de dire: le Sauveur, désormais, est proche. Alors lui, il a une manière assez virile de prêcher, donc il dit, genre, la hache est au pied de l'arbre, et donc va venir le moment où le Sauveur va prendre la hache, et puis va abattre les branches mortes, et puis au contraire, donner plus de vie aux branches en bonne santé. Donc, Saint Jean-Baptiste, sa prédication majeure, c'est: le Sauveur, maintenant, est proche. Et donc, si vous voulez recevoir le Sauveur, donnez un signe comme quoi votre cœur est disposé à recevoir le Sauveur. Donc, parce que c'est cette idée que Jésus ne vient pas nous sauver sans nous. Et donc, le peuple d'Israël, comme souvent, était rentré dans une période peut-être de décadence où il s'était un peu amolli, un peu assiéli. Et donc l'idée le cœur de la prédication de Saint Jean-Baptiste, c'est de dire: le Sauveur arrive, disposez-vous, c'est ce qu'on en dit encore, préparez dans vos cœurs le chemin pour le Sauveur. Donc la circoncision, le baptême de Saint Jean-Baptiste. Et alors pourquoi Jésus vient-il recevoir le baptême de Saint Jean-Baptiste alors que lui n'est pas un pécheur, et donc lui n'a pas besoin de se disposer à l'arrivée du Sauveur, vu qu'il est le Sauveur? Benoît XVI, dans Jésus de Nazareth, donne une réponse qui est très belle, je pense qu'elle est assez décisive. Jésus vient prendre la place des pécheurs. Jésus, sur la croix, vient prendre la place des pécheurs. Jésus se fait pécher pour nous. Jésus endosse sur lui tous nos péchés. Et il subit dans sa chair le châtiment des pécheurs, qui est la mort. Donc Jésus vient prendre la place des pécheurs. Et donc, au baptême, déjà, en entrant dans le Jourdain, en acceptant que Saint Jean-Baptiste le plonge, il dit, de façon symbolique, et personne ne comprend, et Saint Jean-Baptiste est le premier à ne pas comprendre, Mais Jésus dit déjà par là, je viens prendre la place des pécheurs, et viendra un jour où je serai plongé dans, non plus l'eau du Jourdain, mais dans les tourments de la passion, et j'y serai plongé parce que j'y prends la place des pécheurs. Et Jésus d'ailleurs parle de sa passion comme d'un baptême. J'ai grand hâte d'être baptisé de ce baptême. Et donc, parce que le baptême, c'est d'abord être plongé. Donc, c'est d'abord une immersion. Donc, Jésus, en acceptant et en voulant être baptisé par Jean-Baptiste, il dit bien, laisse faire, il faut que soit accomplie toute justice. Et cette justice dont Jésus parle, c'est le fait qu'il vient prendre la place des pécheurs pour nous sauver. Donc, même s'il a été circoncis, Jésus est vraiment au cœur du plan de Dieu lorsqu'il vient pour être baptisé par son nom. Mais c'est pas tellement ça peut être développé effectivement dans d'autres évangélistes, mais finalement c'est pas là-dessus que Saint-Marc appuie. Parce que vous voyez, Saint-Marc ne dit rien de ce dialogue de Saint-Jean-Baptiste et de Jésus, où Saint-Jean-Baptiste est très déconcerté et où Jésus lui répond « Laisse faire, il faut que soit accomplie toute justice ». Le but de Saint-Marc, le but premier dans ce prologue, c'est en fait de montrer concrètement combien le titre qu'il a donné à son évangile est vrai. C'est-à-dire que dans ce passage, très court, mais très important déjà, Jésus se manifeste comme le Messie et comme le Fils de Dieu. Et donc on rejoint exactement le titre Évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Jésus, dans ce passage, se manifeste comme le Christ, se manifeste comme le Fils de Dieu. Mais comme il n'y a pas que moi qui travaille, je vais vous laisser me dire comment et par la voix de qui et par le témoignage de qui Jésus se manifeste-t-il comme Christ et se manifeste-t-il comme Fils de Dieu.
Déjà à la fin,
on dit que c'est plus facile. Bien. Et c'est bien, c'est le privilège du premier qui part, il a le droit de choisir la réponse la plus facile. Alors, effectivement, Jésus est manifesté comme Fils de Dieu par le témoignage de la voix du Père qui témoigne en sa faveur, « Tu es mon Fils bien-aimé ». En tout cas, c'est le plus clair.
Oui, mais le ciel s'ouvre à ce moment-là.
Le ciel s'ouvre, l'Esprit Saint descend, et la voix du Père se fait entendre, « Tu es mon Fils bien-aimé ». Donc, voilà, on ne peut pas rêver meilleur témoignage que celui de Dieu, celui de l'Esprit de Dieu, qui atteste que Jésus est le Fils. Alors, il y en a un peu plus compliqué maintenant. Qu'est-ce qui, dans ce passage, atteste que Jésus est aussi le Christ, c'est-à-dire le Messie attendu par Israël?
Le fait que Jean-Baptiste le reconnaisse
aussi. Effectivement, le fait que Saint Jean-Baptiste annonce que vient derrière lui quelqu'un qui sera plus puissant que lui et qui baptisera dans l'Esprit Saint, étant entendu que le don de l'Esprit Saint était considéré par le peuple d'Israël comme un des grands signes de l'avènement du Messie. Quand le Messie viendrait, l'Esprit Saint serait répandu, on dit ça dans Ézéchiel notamment, et aussi dans le prophète Joël. Voilà. Ce don de l'Esprit Saint mis en lien avec la venue du Messie. Et pourquoi Saint-Marc nous dit-il que Saint-Jean-Baptiste était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins? Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Parce que, mais on ne dit quasiment rien de Jésus. On ne dit pas à quoi il ressemble, ni comment il était habillé, ni quelle était sa taille. En revanche, Saint-Marc, au milieu de ce prologue, s'arrête tout d'un coup pour faire un peu le guide, côté pittoresque, diététicien, vegan, pas tout à fait, parce qu'il est comme des sauterelles. Quel est l'intérêt, finalement, de ce passage pour quelque chose qui peut paraître très dérisoire alors qu'on est au moment du baptême de Jésus?
Ça légitime la sainteté de Jean-Baptiste.
Alors, c'est légitime Saint-Jean-Baptiste comme ascète, mais il y a quelque chose de plus. C'était l'hiver, peut-être. Côte de chameau, chaussures de cuir. C'est le vêtement d'Élie. On trouve ça dans le deuxième livre des rois. Il leur dit, comment était habillé l'homme qui est venu à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Donc là, c'est le roi d'Israël qui parle, qui vient de prendre une prophétie en pleine figure. Ils répondirent, c'était un homme portant un vêtement de poil et une ceinture de cuir autour des reins. Le roi déclara donc, c'est Élie de Tishbé. Donc, ça c'est le deuxième livre des rois, chapitre 1, versets 7 à 8. Et donc, si Saint-Marc s'arrête à décrire le vêtement de Saint-Jean-Baptiste, c'est parce que Saint-Jean-Baptiste porte le vêtement d'Élie. Or, là aussi, c'était un signe de l'avènement du Messie, à savoir que la venue du Messie serait immédiatement précédée par la venue d'Élie. Donc, on trouve ça dans le prophète Malachie, Malachie chapitre 3 versets 23-24. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Donc, il y avait cette conviction très forte dans le peuple d'Israël que juste avant le jour du Seigneur, qui est le jour du Messie, viendrait Élie. Conviction d'autant plus forte qu'Élie n'était pas vraiment mort, puisqu'il avait été emporté au ciel sur un char de feu. Donc il y avait cette idée que Élie était un peu en réserve sur le banc de touche et qu'au moment décisif du match, il ferait son apparition. Et donc c'est pour ça qu'il y a toute cette discussion avant des apôtres, quand le Christ leur dit qu'il est le Messie, oui, mais on nous a dit qu'Élie devait venir, mais Élie est déjà venu, et il n'a pas été reconnu, c'était Jean-Baptiste. Vous voyez, Jean-Baptiste est le nouvel Élie. En fait, cette venue d'Élie qui devait précéder la venue du Messie, ce n'est pas une résurrection d'Élie ou une réapparition d'Élie, le prophète de l'Ancien Testament. C'est Saint Jean-Baptiste qui est venu, comme dit Jésus, avec la puissance et l'esprit d'Élie, puisqu'il est voilà, le prophète vigoureux, intransigeant, tout donné à Dieu, qui était l'Élie de l'Ancien Testament.
Quand Jésus pose la question pour vous qui suis-je,
ah, et certains là, disent,
réponds aussi, c'est certains disent, tu es Élie.
Voilà. Pour les hommes qui suivent, pour certains tu es Élie, pour d'autres Jérémie ou l'un des prophètes, c'est ça qu'on voit bien, mais comment le Christ pourrait-il être Élie vu qu'il est mort? Parce qu'effectivement, il y avait cette idée du retour d'Élie, et donc pour un certain nombre de gens, Jésus était non pas le Messie, mais juste un prophète, et peut-être la reviviscence d'Élie. Donc, l'importance finalement de montrer que Saint Jean-Baptiste est le nouvel Élie, parce que c'est une manière de témoigner en faveur de Jésus Messie. Parce que si Saint Jean-Baptiste est le nouvel Élie, eh bien celui qui le suit immédiatement, qui est plus grand que lui, qui baptise dans l'Esprit Saint, celui-là est le Messie. Vous voyez, évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, il y a la voix de Saint Jean-Baptiste qui proclame qu'il est le Christ, la voix du Père qui proclame qu'il est Fils de Dieu. Et on peut même ajouter autre chose, la voix des prophètes eux-mêmes, puisque le texte commence par « Il est écrit dans Isaïe le prophète, voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Donc sous-entendu, avant le Christ viendrait une voix du désert, on sait que Jean a passé de nombreuses années dans le désert, une voix du désert qui dirait « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers », ce qui est en fait effectivement le cœur de la prédication de Saint Jean-Baptiste. Exactement. Saint Jean-Baptiste, il a un pied sur le versant de l'Ancien Testament et un pied sur le versant du Nouveau, puisque, comme dit très bien la préface de Saint Jean-Baptiste le 24 juin, il est celui qui non seulement a annoncé le Christ, mais qui l'a montré du doigt. Et donc, il a ce privilège, effectivement, par rapport aux autres prophètes, de ne pas seulement avoir annoncé la venue du Messie de loin, mais d'avoir pu dire « Voici l'agneau de Dieu ». Donc, celui que j'ai annoncé, il est là, devant moi. Donc, de ce point de vue-là, il est plus qu'un prophète, il est vraiment le précurseur, mais c'est vrai que il fait partie encore intégrante de l'Ancien Testament, au sens où il va mourir avant que le Christ ne ressuscite, et fasse vraiment entrer les hommes dans l'Alliance Nouvelle. Donc, il a un pied dans l'Ancien et un pied dans le Nouveau Testament.
Est-ce qu'il faut prendre la voix et la colombe au sens antidalaire, ou est-ce que c'est un style littéraire, comme le style littéraire de Botany, comme le Prévert, qui relève dans le mouvement des écrans?
Enfin, du coup, c'est sûr que.
Tu comprends plus la juste.
Pardon, j'ai pas compris.
Parce que c'est un style littéraire qui soit aussi compréhensible d'un juste, et de la révélation de Dieu.
Oui, c'est sûr qu'il y a. C'est sûr que c'est le langage des théophanies, donc c'était la théophanie, c'est des manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament, notamment avec la voix de Dieu et puis avec les cieux qui s'ouvrent. C'est d'ailleurs la première manifestation, encore très discrète, de la Sainte Trinité, puisqu'il y a la voix du Père, il y a la colombe de l'Esprit Saint, et il y a le Fils qui est dans le Jourdain. Donc c'est vrai que c'est plus qu'une manifestation de l'Ancien Testament, parce que c'est déjà une manifestation trinitaire. Alors après, il faut être effectivement bien lire ce que dit le verset, hein. L'Esprit descend sur lui comme une colombe, donc c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il y a une incarnation de l'Esprit Saint dans une colombe, comme le Fils de Dieu s'incarne dans un homme, en Jésus de Nazareth. C'est-à-dire la colombe ne devient pas l'Esprit Saint, mais c'est une manifestation, effectivement, sans doute, d'une descente d'un lumineuse qui, par sa légèreté, par sa blancheur, par sa rapidité, et puis peut-être par une forme un peu esquissée de colombe, ça rappelle une colombe. Mais le texte dit bien descend sur lui comme une colombe, c'est-à-dire sous l'apparence d'une colombe, mais c'est pas forcément une colombe qui descend des petites ailes, des petites plumes. On peut imaginer, plutôt une espèce de colombe très lumineuse, très rayonnante, descendre sur le Christ. Et puis, pour ce qui est de la voix, alors après, il faudrait faire une comparaison des quatre évangiles que je n'ai pas faite avant la soirée, mais il me semble que dans un autre évangile, un des trois autres, on dit justement que la foule qui est sur la rive entend comme un tonnerre. Donc, c'est-à-dire qu'apparemment, tout le monde n'a pas entendu « Tu es mon fils bien-aimé ». Donc, il peut y avoir, vous voyez, un peu comme dans les apparitions à Fatima, où tous les enfants n'entendent pas et ne voient pas la même chose, et ça dépend aussi de l'ouverture du cœur de la personne. On peut imaginer que Saint Jean-Baptiste et les premiers disciples de Jésus, qui sont déjà là, en fait, comme on le voit dans l'évangile de Saint Jean, eux ont entendu qu'il est le Fils bien-aimé, et que une partie de la foule a juste entendu un grondement de tonnerre, qui permettait déjà à la foule de comprendre que cet homme était plus qu'un homme, qu'il y avait quelque chose qui se passait, que ce n'était pas juste un juif de plus qui était baptisé, mais qui laissait un peu en suspens la question de l'identité de cet homme, parce que leur cœur, sans doute, n'était pas encore prêt à entendre qu'il est le Fils bien-aimé. Il n'était pas encore prêt à cette révélation trinitaire. Je ne sais plus exactement si c'est Saint Matthieu ou Luc. Je vais laisser deux secondes pour vite regarder.
En tout cas, dans Luc, ils ne disent pas que c'est un coup de tonnerre.
Hein. On va regarder Saint Jean. Bon, j'espère qu'il y en a un qui le dit, sinon je vais perdre un temps à crédibiliser. Oui,
tu as tout
confiance. Il y a là, un peu la pression, là, tout de suite.
C'est dans
Saint Jean. Ça ne peut pas être dans Saint-Jean non plus, donc là,
Saint-Jean,
là il y a la pression en tout cas.
C'est Matthieu, alors.
On espère.
Oui, c'est dans un autre passage, non?
Peut-être dans le cinquième.
On parle de... Pas le
genre
de passage, pas le baptême.
Je pense que c'est dans l'évangile de Saint-Philippe.
Un coup de tonnerre.
Il me semblait qu'il y en avait un où on disait effectivement que les gens avaient entendu comme un tonnerre. Nicodème, tac-tac-tac. Le témoignage de Jean-Baptiste. Voici venir. Pour l'instant, je ne retrouve pas. Mais...
Non, c'est dans un autre.
C'est peut-être à Jérusalem, alors quand. Ce serait autre chose, évidemment, mais. Je pense que c'est.
C'est un autre endroit.
Ah, ouais, je pense que c'est à Jérusalem, justement, à la Pâque, en fait.
Oui, c'est ça.
Jésus se déclare fils de Dieu, Jésus se fait au jardin, c'est tout ça. Une voix vint alors du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai à nouveau. La foule se tenait là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre, d'eau disait c'est un ange qui apparaît.
C'est pas au moment du baptême.
Mais rien n'empêche de penser qu'au moment du baptême, c'était la même chose. C'est toujours embêtant là, de parler des textes qu'on les a pas relus effectivement avant la rencontre, donc ça évite de se planter. Mais bon, enfin, la colombe, donc qui est je pense plus une apparition lumineuse en forme de colombe qui représente donc l'Esprit Saint, les cieux qui déchirent effectivement Théophanie et la voix du Père. Alors voilà, je laisse à chacun le soin de savoir si tout le monde a entendu ou s'il y avait comme un grondement de tonnerre. Donc voilà, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Lorsque je baptise, je terminerai peut-être là-dessus, enfin, j'ai deux choses encore à dire. Lorsque je baptise des petits-enfants, je dis toujours, ou quasiment toujours, juste avant de baptiser, qu'il faut bien comprendre qu'au baptême se réalise, au baptême chrétien, dans le sacrement de baptême, se réalise invisiblement, mais tout aussi réellement, ce qui s'est passé au Jourdain pour le Seigneur Jésus. Donc j'invite les personnes qui sont là à se remémorer cet événement du Jourdain et en leur faisant bien comprendre que justement dans le cœur du petit baptisé, l'Esprit Saint va descendre pour prendre totalement possession de ce cœur et en laver le péché originel et faire de ce cœur le temple de l'Esprit Saint, comme dit Saint Paul. Et que la voix du Père va se faire entendre dans le cœur de cet enfant, qui ne peut pas encore l'entendre avec ses oreilles, et Dieu le Père dit à cet enfant, ou à cet adulte, à tout nouveau baptisé, « Tu es mon enfant bien-aimé », puisque par le baptême, nous sommes incorporés au Christ, et nous devenons enfants de Dieu, puisque la vie de Dieu est répandu dans notre âme pour que nous vivions désormais en enfant de Dieu, in Christo, donc dans le Christ, en étant incorporé au Christ, en faisant partie de ce corps du Christ qu'est l'Église. Jésus de Nazareth est la tête de ce corps et il fait couler dans les membres de ce corps sa vie et l'impulsion de sa grâce qui nous devenir des saints et à vivre de la vie de Jésus. Non pas pour une imitation extérieure, on peut tous faire pousser la barbe et marcher en Dieu là-bas, mais pour une imitation intérieure, pour que notre vie soit reflet de la vie de Jésus. Donc c'est très important, là, quand nous assistons à un baptême, quand nous fêtons notre baptême, si vous connaissez notre date de baptême, je vous encourage beaucoup à fêter l'anniversaire de votre baptême, c'est ce qu'on faisait dans les temps de chrétienté, dans l'Ancien Régime, on connaît plus sa date de baptême que sa date de naissance. Généralement, c'est pas très loin, donc c'est pas trop compliqué de se rappeler l'une si on connaît l'autre. Généralement, on est baptisé le jour même ou le lendemain de sa naissance. Mais voilà, l'importance de fêter son baptême et de se souvenir qu'à son baptême, eh bien, voilà, l'Esprit Saint est descendu, alors non pas sous forme de colombe, mais il est descendu réellement. La voix du Père s'est faite entendre, non pas de façon audible, mais mystérieuse, mais tout aussi réellement, Dieu dit à chaque enfant et à chaque adulte baptisé, tu es désormais mon enfant bien-aimé. Donc voilà l'importance de se rappeler vraiment le sens de notre baptême comme entrer dans cette vie d'enfant de Dieu. C'est la première chose. La deuxième chose qui est sans doute moins importante que ça, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus important que ça, c'est que en fait, Saint Marc dit, il est écrit dans Isaïe le prophète, mais il fait une petite, un petit condensé de deux prophètes, Isaïe et Malachie, puisque les deux premiers versets viennent de Malachie. Alors vous allez me dire, en quoi c'est intéressant? C'est intéressant d'une part parce que c'est Malachie qui parlait donc de cette venue d'Élie avant la venue du Messie, et surtout c'est intéressant parce que Malachie c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est-à-dire que finalement, reprendre comme ça cette prophétie de Malachie et reprendre cette annonce de la venue d'Élie, c'est aussi faire le lien entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le premier livre du Nouveau, qui est l'Évangile. Oui, c'est aussi montrer comment voilà, ce flot de l'Ancien Testament ne vient pas aboutir à une impasse, mais au contraire, il vient se jeter dans l'océan du Nouveau Testament. Voilà, c'est intéressant de le noter, puisque c'est Malachie, dans le chapitre 3, verset 1, qui dit « Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici, il vient. » C'est intéressant de dire, parce que Dieu dit, voici que j'envoie mon messager devant moi, et Saint Marc il dit, voici que j'envoie mon messager devant toi. Donc finalement, dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui parle de lui, et dans le Nouveau, c'est le Père qui parle du Fils. C'est assez sain aussi comme annonce de la Sainte Trinité. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui dit « J'enverrai devant moi mon messager ». Donc la Sainte Trinité reste dans l'obscurité. Et dans le Nouveau Testament, la Sainte Trinité se révèle. Donc là, on peut comprendre que c'est le Père qui parle à son Fils en disant « J'enverrai mon messager, Jean, devant toi, mon Fils ». Intéressant. Donc voilà, Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Des questions, ce prologue. Merci. Merci, très bien. Hein, très bien. Effectivement, pourquoi il est associé au lion? Alors, c'est une vision du prophète Ézéchiel, donc dans l'Ancien Testament, qui, au tout début du livre, chapitre 1er d'Ézéchiel, voit Dieu monter sur un char, et ce char est en quelque sorte soutenu par des créatures qui ont, je le fais en très rapide, parce que la vision est plus complexe et même assez difficile à imaginer, parce que la description, on a du mal finalement à se rendre compte exactement de ce que ça représente, mais pour faire court, Ézéchiel voit Dieu monter sur un char, et ce char est soutenu par quatre êtres qui ont une face d'homme, une face de lion, une face de taureau, une face d'aigle. Alors, la symbolique de cette vision, c'est qu'en fait, Dieu quitte le temple de Jérusalem sur son char pour accompagner son peuple en exil. Ça, c'est la signification première de la vision, qui est de dire que Dieu ne reste pas à Jérusalem et son peuple part à Babylone, que Dieu accompagne son peuple à Babylone. Et ces créatures, avec ces quatre faces, ce sont en fait plus ou moins ce qu'on appelle les kéroubes, qui a donné les kérubines et les chérubins en fait. Donc les kéroubes, ce sont les serviteurs des divinités païennes de Babylone. Et donc le sens, c'est de dire que finalement, ces serviteurs, ils ne sont pas au service de divinités païennes qui n'existent pas, mais ils sont au service du vrai Dieu qui les domine, puisqu'en fait, ils servent de roue, en quelque sorte, et de char à Dieu. Donc, ça, c'est l'idée première de Ézéchiel. Cette vision, elle sera reprise de façon simplifiée dans l'Apocalypse, au chapitre 4, quand Saint Jean, dans l'Apocalypse, parle des quatre vivants qui rendent hommage à Dieu, et Saint Jean l'évangéliste dit « L'un était un lion, l'autre avait une apparence de taureau, l'autre avait une apparence d'aigle, et l'autre une apparence d'homme. » Alors, dans l'Apocalypse, là, c'est plutôt, donc Saint Jean reprend donc, la symbolique d'Ézéchiel, mais c'est plutôt la création dans ce qu'elle a de noble, le lion, dans ce qu'elle a de fort, le taureau, dans ce qu'elle a de sage, l'homme, dans ce qu'elle a d'agile et d'aérien, l'aigle. Donc, d'abord Ézéchiel, Dieu qui quitte son temple pour suivre son peuple en exil et qui domine les kéroubes. Ensuite, Apocalypse, toute la création qui rend hommage à Dieu, avec différentes symboliques. Et c'est Saint-Irénée qui, le premier, va associer chacun de ces symboles, les quatre vivants de l'Apocalypse, avec un évangéliste. Et Saint Jérôme reprendra le travail, mais il changera la symbolique, et il lira, l'homme à Saint Matthieu, parce que Saint Matthieu commence son évangile par la généalogie humaine de Jésus. Il lira Saint Marc au lion, parce que le lion était traditionnellement un animal du désert de Judée. Vous voyez, on va se rendre compte qu'il y avait des lions en Judée dans l'Ancien Testament, et même un peu encore dans le Nouveau, mais bon, c'est les croisades qui font disparaître les lions. Mais le lion est un animal du désert de Judée. Or, Saint Marc commence son évangile dans le désert, en quelque sorte avec Saint Jean-Baptiste qui vient du désert. Saint Luc, c'est le taureau, parce que le taureau est un animal sacrifié au temple, et Saint Luc commence son évangile dans le temple de Jérusalem avec la venue de l'ange qui va annoncer à Zacharie, alors qu'il offre le sacrifice, qu'il va être père de Saint Jean-Baptiste. Et Saint Jean est associé à l'aigle parce qu'il commence son évangile dans les hauteurs de la divinité avec... Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et donc, l'aigle est traditionnellement l'oiseau des hauteurs. Alors, Saint-Irénée, lui, il avait associé le lion à Saint-Jean, parce que le lion est l'animal noble par excellence, et donc on commence par la divinité qui est la noblesse par excellence, et il avait accolé l'aigle à Saint-Marc, parce que ça commence justement par Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et donc on était amené avec ce titre de l'Évangile dans les hauteurs de la divinité. L'idée est un peu la même, mais ben, Saint-Irénée n'avait pas la même attribution, mais c'est symbolique. Hein, mais c'est une attribution qui... Il y a eu une grande postérité dans l'art, puisque très souvent, pour reconnaître un évangéliste, et d'ailleurs la Madeleine, je pense dans la coupole, c'est le cas, on lui met à côté son symbole. Voilà. Donc ça vient d'Ézéchiel, via l'Apocalypse, et je vais faire des vies.